Radio Kapi.
Le journal de Linda Bosuma.
Célébration aujourd'hui 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme, occasion pour les défenseurs de droits de l'homme de Goma de dresser un tableau sombre de la situation des droits humains au Nord Kivu, cela ces trois décennies de guerre en province. Dans ce journal aussi, nous faisons le point des activités de quelques candidats présidents de la République. C'est dans le cadre, bien sûr, de la campagne électorale pour les scrutins du 20 décembre en cours. Et puis, l'Université de Kindu a signé un partenariat avec l'Université de Kisangani dans le cadre de l'organisation du troisième cycle. Ce programme a été lancé officiellement ce week-end à Kindu. Pour en parler, nous recevons Casimir Ngumbi, secrétaire général chargé de la recherche à l'Université de Kindu. Madame, Messieurs, bonjour. Le monde célèbre ce dimanche 10 décembre la Journée internationale des droits de l'homme, marquant le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À Goma, près de 130 défenseurs locaux dressent un bilan sombre de la situation des droits humains au Nord Kivu pour ces trois décennies de guerre en province. C'était lors d'une journée de réflexion initiée par le foyer de développement pour l'autopromotion des personnes indigènes. Bernardin Nyangi nous fait le point.
D'entrée de jeu, les défenseurs locaux ont jugé la situation des droits de l'homme au Nord Kivu d'être chaotique en raison de la persistance de l'insécurité en province. Vicar Batundiangi, coordonnateur de l'ONG FDAPID.
Nous venons de traverser 30 ans de massacres, de guerres, ce qui veut dire que nous fêtons le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pendant que la situation des droits humains en RDC elle est chaotique, 22 défenseurs emblématiques qui ont été assassinés, 97 cas de défenseurs arrêtés, condamnés, et ça nous pousse à lancer un SOS à tous les dirigeants du monde.
Au-delà de cet appel à action, les centaines de défenseurs des droits humains du Nord Kivu projettent l'organisation de quelques activités.
Nous allons lancer la campagne de vulgarisation de la loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits humains en RDC, même si la loi contient quelques articles qui fâchent. À part ça, on doit renforcer l'éducation aux droits humains parce que on ne peut bien défendre ces droits que lorsque on les connaît.
Cette cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été organisée à Goma en partenariat avec l'ambassade de Royaume des Pays-Bas en RDC. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Entre-temps, sur le terrain des hostilités, toujours au Nord Kivu, la situation est calme mais toujours volatile. Ce dimanche, sur les différentes lignes de front opposant les rebelles du M23 à l'armée congolaise dans le territoire de Masisi. D'après plusieurs sources locales, après un affrontement jusque tard dans la nuit d'hier à ce dimanche, les lignes n'auraient pas vraiment bougé autour des localités de Kiroche et Chacha, environ 10 km de Sake. Le M23 occupe toujours la colline de Ngingwe, surplombant Chacha. Le récit de Bernard Nyangi.
Une accalmie est observée ce dimanche matin autour de Sake, constatent les habitants et gens sur place, même si ces derniers estiment qu'à tout moment la situation peut basculer et devenir hostile. Depuis 9h locales, hier samedi, des violents combats ont opposé l'armée congolaise et les groupes armés locaux aux rebelles du M23 autour de la colline de Ngingwe, surplombant le village de Chacha. Après 7 heures de combat, les lignes n'auraient pas bougé, font remarquer nos sources qui précisent que les rebelles contrôlent toujours cette colline située à près de 5 km de Chacha, un village jouxtant la route nationale numéro 2, Goma-Bukavu. Pendant les combats, une bombe est tombée dans les périphéries de Sake, dans un endroit appelé Mayuta, mais sans faire de victimes, informent quelques sources. Les acteurs de la société civile à Masisi Centre nous confirment par ailleurs que la calmie est aussi observée dans la zone de Biambwe, ouest de Mushaki, où les rebelles du M23 s'arrêtent jusqu'à présent au niveau de la rivière Lushoga à l'entrée du village. Il faut préciser que Biambwe reste vide de ses habitants. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Pendant ce temps, en Ituri, le gouverneur de province a instruit les militaires des forces conjointes FARDC armées ougandaises d'intensifier les opérations contre les rebelles des EDF dans les chefferies de Boga et Banyari Tchabi au sud du territoire d'Irumu. Cela en vue de garantir la sécurité de plus de 10 000 personnes qui ont regagné récemment leur village d'origine dans ces entités. Le gouverneur l'a dit au cours d'une réunion de sécurité tenue hier à Tchabi Centre. Nous sommes à 120 km au sud de Bunia. Cela grâce à l'appui logistique de la MONUSCO. Le général Johnny Lubuya a également tenu un meeting populaire sur place pour rassurer la population sur des dispositions prises en vue de sécuriser la population pendant cette période électorale. Isaac Remoyope, reportage.
Selon le gouverneur, accompagné des commandants de la 32e région militaire et du secteur opérationnel, l'objectif de sa mission était d'évaluer les opérations militaires conjointes FARDC armée ougandaise avec l'appui de la MONUSCO contre les ADF lancées depuis quelques mois dans cette entité, ce qui a permis à plus de 10 000 déplacés de retourner dans leur village dans les chefferies de Baïma, Boga et Banyari Tchabi. Cependant, depuis un mois, des attaques sporadiques des rebelles des ADF sont signalées après une période d'accalmie observée dans la région, a déclaré le gouverneur. Selon des sources locales, au moins 5 personnes ont été tuées et d'autres enlevées à la fin du mois de novembre dernier. Face à ces menaces, le gouverneur s'est déplacé samedi à Tchoumia pour encourager les militaires à poursuivre la traque de ces rebelles en vue de sécuriser la population pendant cette période électorale. Le général Johnny Lubuya Kachama.
Je suis venu pour parler à tout le monde, que ce soit nos partenaires ougandais, que ce soit à nos amis aussi, la MONUSCO, avec qui nous avons beaucoup travaillé ici, rehausser le moral pour affronter cet ennemi, parce qu'en ce moment, nous ne pouvons pas nous permettre d'une insécurité ici à Boga et à Tchabi. Nous sommes devant les élections dans quelques jours.
Le gouverneur de province a également déclaré que l'effectif des FARDC sera renforcé dans la région en vue de démanteler ces rebelles des ADF. Un message accueilli avec joie par la population locale. Des retours de Tchabi, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Restons en Ituri. Plus de 5000 déplacés du site de Tché dans le territoire de Djougou ont bénéficié d'une assistance composée des articles ménagers et autres équipements nécessaires dans des bâches pour la construction des abris. C'est l'ONG Programme de promotion des soins de santé primaires qui a assuré la distribution clôturée vendredi dernier dans le cadre du projet Réponse rapide de l'UNICEF. Selon cette ONG, l'objectif de cette action est d'améliorer les conditions de vie de ces déplacés et prévenir certaines maladies récurrentes dans le site. Des détails avec à nouveau Isaac Remoyope.
Ces déplacements bénéficiaient notamment des articles ménagers essentiels composés de casseroles, des gobelets, des eaux, des nattes et des couvertures. Ils ont aussi reçu des bâches pour la construction des abris devenus vétustes ou détruits par les intempéries. Les femmes en âge de procréation ont reçu aussi des kits d'hygiène intime et des pagnes, affirmaient les chargés de communication de l'ONG PPSSP. Cette organisation internationale a également mis à leur disposition des matériels aratoires, dont des pioches, marteaux, bêches, ainsi pour assurer la propreté dans les sites et creuser des fosses pour les latrines dont la plupart sont déjà au rizage, ce qui expose ces déplacés à des maladies. Cette donation vise à améliorer les conditions de vie de ces déplacés dont les biens étaient pillés pendant les attaques des groupes armés, déclare le chargé des communications Trésor Muyumba, mais aussi prévenir certaines maladies récurrentes dans les sites faute d'hygiène. Selon les responsables du site, cette action permet de soulager leurs souffrances car ils n'ont jamais reçu d'assistance depuis 2021. Cependant, ils expriment les besoins pour une aide alimentaire et en médicaments auprès du gouvernement et des humanitaires. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Direction la province de la Tchopo. Les candidats présidents de la République continuent à défiler devant la population pour solliciter leur voix. Tony Cassius Bolamba, candidat numéro 7 à la présidentielle du 20 décembre, a préféré conférer avec les jeunes plutôt que de s'adresser directement à toute la population, comme il est de coutume en pareille circonstance. Dans son projet de société, il dit prôner l'austérité en vue d'établir un équilibre social et partant la justice sociale. Reportage de Jacques Moukonkolé.
Tony Bolamba dénonce le déséquilibre social dû au manque de la justice distributive dans le pays. Pour cela, il compte diminuer les salaires de ceux qui touchent beaucoup plus que les autres.
Je trouve inadmissible qu'un député puisse percevoir un salaire de 20 000 dollars américains, alors qu'un professeur qui donne les savoirs pour le bien des futures générations puisse avoir 200 dollars. Je trouve inadmissible qu'un sénateur ou un ministre puisse avoir 30 000 ou 50 000 dollars le mois, alors qu'un médecin qui sauve des vies puisse avoir 300, 500 dollars le mois.
La solution de tous les autres problèmes sociaux qui se posent dans le pays dépendra de la mise en œuvre de cette politique d'austérité, déclare-t-il. En l'occurrence, les routes, l'eau et l'électricité, pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, évoquant la guerre à l'est du pays, Tony Bolamba se surge contre ceux qui développent un discours négatif à l'égard des FARDC et du président de la République. En tant que chef suprême de l'armée nationale congolaise, il doit être soutenu au nom de la sauvegarde de la nation congolaise, souligne le candidat numéro 7. Agir autrement serait une façon de faire le lit de l'ennemi, soutient-il. C'est pourquoi il appelle les jeunes à la vigilance et à se désolidariser de tous ces genres de politiciens. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
De son côté, le candidat Jean-Claude Bayindé a tenu un meeting hier à Mbandaka. Le candidat présidentiel numéro 6 a été accueilli dans son fief par une foule qui l'a accompagné de l'aéroport jusqu'au lieu du rassemblement. Il s'est dit rassuré de sa victoire au lendemain du scrutin du 20 décembre. Bayindé a promis la paix et le pain, symbole de la sécurité et du bien-être qu'il va accorder en tant que sixième président de la République. D'après lui, le compte-rendu de Paul-Richard Malengela.
Aussitôt, le candidat numéro 6, Jean-Claude Bayindé, a focalisé son projet de société sur deux principaux axes en vue d'atteindre le développement de la RDC, à savoir la paix et le pain. D'abord, a dit l'ancien gouverneur de l'ex-Équateur, il va en priorité assurer la sécurité de tous les Congolais. Il s'est dit capable de mettre fin à la guerre dans l'est du pays, à l'instar de l'insurrection des Agnélés qui avait éclaté à l'Équateur sous son mandat. À cet effet, Jean-Claude Bayindé compte perfectionner l'armée nationale afin qu'elle redevienne forte et digne comme du temps du maréchal Mobutu. Autre priorité pour la paix, a ajouté le président de l'ADH, c'est la restauration de l'autorité de l'État et l'unité des Congolais en bannissant le tribalisme et la corruption. En revanche, la recette pour le bien-être des Congolais, selon le candidat numéro 6, c'est la promotion de l'agriculture et des richesses nationales en vue de créer des emplois, mais aussi la mise en place des infrastructures socio-économiques de base de qualité. Enfin, Jean-Claude Bayindé, qui compte aller jusqu'au bout de son combat, a dénoncé les faiblesses du processus électoral en cours. Toutefois, il a exhorté les Congolais à aller tous voter et à demeurer vigilants afin d'éviter toute fraude au profit d'un candidat. Mbandaka, prochain Malengela, Radio Okapi.
Par ailleurs, les élections constituent un moment décisif pour la vie d'un pays et c'est le moment où les citoyens sont appelés à exprimer leur volonté par le biais de leur vote. C'est le devoir d'expression de chaque citoyen. Déclaration de Plami Mayemba, chargé de communication du mouvement d'action des citoyens pour la transparence des élections 2023, acte 2023 en sigle. Il s'est exprimé ainsi hier à Kinshasa à l'occasion de la campagne de sensibilisation sur les outils d'aide au vote dans la commune de Ngaliema, au quartier Ma Campagne, se devant des milliers de personnes. Cette campagne a été lancée il y a 2 semaines par le consortium CEPAS, INADES Formation et Bouteli Acte 2023 et le réseau Pona Congo pour orienter les Congolais à un vote utile. On écoute à ce sujet Plami Mayemba dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Alors, la Constitution nous renseigne que la population a le pouvoir, c'est la population qui détient le pouvoir, mais l'exerce directement ou indirectement. Alors aujourd'hui, nous avons voulu sensibiliser la population sur ce pouvoir qu'elle a, afin qu'au moment du vote, au moment du choix, qu'elle fasse un choix utile. Pour identifier un mauvais candidat, il faut regarder son projet de société. Un député qui vient, un candidat qui vient, rien qu'avec des promesses, sans rien de concret, n'est pas un bon candidat. Il faut voir le candidat qui a réellement un projet qui répond aux problèmes réels de la population. Nous croyons fermement que le gouvernement pourra répondre à la demande de la CENI et que la CENI sera capable d'organiser les élections dans les délais. Nous faisons confiance à la CENI et rendez-vous le 20 décembre. Cette campagne ne s'arrête pas parce qu'elle s'étend sur 2 ans. Nous préparons la population avant, pendant et après les élections. Donc notre campagne va toujours continuer.
Nous sommes à présent au Kasaï oriental, signalant la reprise vendredi à Mbujimayi de la vente de maïs de service national de Kanyama KCC. C'est après les troubles de quelques heures enregistrés jeudi dernier devant un dépôt de vente dans la commune de Dibindi. En effet, quelques habitants manifestaient contre la hausse de prix d'un sac de 50 kg de maïs vendu il y a un mois à 80 000 francs congolais. Le prix a été fixé à 100 000 francs par le service national. Après des discussions avec l'autorité provinciale, le prix a été revu à la baisse.
Le sac de 50 kg de maïs produit par le service national se vend actuellement à 70 000 francs congolais. Jeudi dernier, ce service avait proposé le prix de 100 000 francs congolais au lieu de 80 000 francs qu'il a vendu au mois de novembre dernier. Quelques habitants ont brûlé les pneus devant les dépôts où la cargaison destinée à la vente a été entreposée. Ils manifestaient contre la hausse des prix et la vente a même été suspendue momentanément. Des sources proches du gouvernorat des provinces indiquent que Cette baisse de prix intervient après la réunion convoquée le même jour par la gouverneure de province intérimaire dans le but de calmer la tension enregistrée sur le lieu de vente de ce maïs dans la commune de Dibindi. Une situation saluée par plusieurs habitants. Signalons que le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, a aussi lancé ce vendredi la vente des sacs de farine de maïs produits sur le site agricole d'Enkwadi par Bio Agro Business. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Nous sommes en Afrique du Sud. Des mineurs ont bloqué vendredi sous terre plus de 400 de leurs collègues dans une mine d'or. C'était sur fond des tensions liées à un meurtre cette semaine, a-t-on appris des sources sur place. Selon la police citée par des médias locaux, l'homme âgé de 55 ans a été tué par balle dans sa voiture mardi. La police n'a pas donné le motif de ce meurtre. Des employés rebelles encagoulés ont pris jeudi soir les badges d'accès de leurs collègues qui ne peuvent donc plus remonter à la surface. Selon l'entreprise, des cadres intermédiaires et des contractuels figurent parmi les personnes retenues sous terre.
L'invité.
Il s'agit de Casimir Ngoumbi Kitete, secrétaire général chargé de la recherche à l'université de Kindu. Cette université a signé un partenariat avec l'université de Kisangani dans le cadre de l'organisation du troisième cycle à l'université de Kindu. Ce programme a été lancé officiellement ce week-end. Notre invité en parle avec Florence Kiza.
Professeur Casimir Ngoumbi, bonjour.
Bonjour, maman Florence.
Quelle est la valeur ajoutée de ces partenariats que l'université de Kindu vient de signer avec l'université de Kisangani dans le cadre de l'organisation du troisième cycle?
Permettez d'abord que je remercie le comité de gestion de l'université de Kisangani à travers la personne professeur ordinaire Jean-Faustin Bongilo qui a signé avec le recteur Kimenya ce partenariat qui nous permet désormais de former les professeurs d'université ici. La valeur ajoutée, vous avez posé la question, ce que plus question pour les candidats de se déplacer et lorsqu'ils ont fini, ils peuvent nous aider à atteindre l'objectif principal qui est celui de préparer la relève, de faire en sorte qu'un jour, après 5-10 ans, l'université de Kindu devienne autonome et ses propres enseignants et surtout respire un tout petit peu par rapport à la rubrique prise en charge des professeurs visiteurs qui viennent de partout ailleurs là. Et je vous informe que c'est la plus grande dépense pour l'instant de notre alma mater.
Que gagnera l'université de Kisangani ou bien l'université de Kindu dans ces partenariats?
L'université de Kisangani gagne dans cette symbolique d'être une grande, une vieille, qui est capable d'aider les jeunes universités. Elle gagne aussi financièrement, pourquoi pas, parce que quand vous avez un grand nombre de candidats qui viennent, ils payent l'inscription, ils payent les frais de dépôt sur le plan financier. L'université de Kisangani gagne, mais beaucoup plus symboliquement. Vous savez qu'il y a beaucoup de temps, beaucoup d'années, madame, les pays voisins venaient ici chez nous pour être formés. Mais après 94, ceux qui étaient professeurs d'université à partir d'ici sont rentrés chez eux au Rwanda, en Ouganda. Et nous devons revoir comment solidifier la question de formation des cadres, de formateurs, de professeurs d'université ici chez nous. De sorte que on sait cette affaire où nous allons toujours observer que les professeurs d'université sont formés au Kenya, ils vont défendre leur thèse doctorat en Ouganda. C'est inadmissible alors que les décennies passées, c'était le contraire. Donc, c'est une revanche historique pour la République démocratique du Congo, mais pourquoi pas aussi revanche historique par rapport à la jeune université de Kindu qui aspire à être une grande université au centre de l'Afrique.
La part de l'université de Kindu.
La part de l'université de Kindu, c'est résoudre cette question de relève. Nous voulons autonomiser l'université de Kindu, permettre à cette jeune université, n'est-ce pas, un jour, d'être une grande université qui doit être citée parmi les grandes universités de la RDC et les grandes universités de l'Afrique, pourquoi pas.
Mais il s'observe que la province du Maniema a beaucoup de professeurs d'université, mais ces professeurs ne restent pas au Maniema et ne dispensent pas cours. Ça ne sera pas la même question pour ceux-là que vous allez former ici. Après la formation, ils partent ailleurs pour rester.
Oui, il ne faut pas tout de suite condamner ce ceux qui partent ailleurs. Il faut donc obtenir qu'on trouve la réponse à la préoccupation de ceux qui partent ailleurs. Pourquoi ils partent ailleurs? Nous devons chercher à connaître les causes, fondamentalement. Mais moi, j'ai l'impression que ceux qui sont partis ailleurs et qui continuent à partir ailleurs sont souvent déçus quand ils partent ailleurs. Ils vont chercher quoi? Je donne l'exemple. Il y en a certains qui sont partis à l'UPN, à l'UNIKIN, parce que il y avait beaucoup d'étudiants et que ce dernier payait les syllabus. Mais les ministres Mouinozang a pris la sévère décision d'arrêter avec les syllabus. Ils ont été désabusés dans cette ambition d'aller là où il y a des grandes universités pour vendre les syllabus. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils sont dessus. Ils ne savent plus rentrer. Et lorsque nous aurons fermé tous ces tuyaux-là, je crois qu'on va réussir à sédentariser le professeur Akindou.
Est-ce qu'il y a des conditions pour s'inscrire au troisième cycle à l'université de Kindou? C'est réservé seulement aux enseignants de l'université de Kindou, bien il y a une porte ouverte pour les enseignants des autres institutions?
Pertinente question. D'abord, il faut terminer dans une université sérieuse. On est venu de l'ISP, on ne peut pas être inscrit. Non, l'ISP, ça signifie que vous devez d'abord faire une véritable licence spéciale. Ce n'est pas seulement les assistants ou les chefs de travaux de l'université de Kindou qui peuvent être inscrits, mais tous les amis licenciés qui ont terminé dans toutes les universités respectées et respectables qui peuvent venir, parce que ceux seront soumis au traitement, à l'étude, pour être véritablement inscrits au troisième cycle à l'université de Kindou.
Professeur Casimir Ngombe, merci.
C'est moi qui vous dis sincèrement merci, madame Florence Kiza.
Et par ici prend fin ce journal mis en onde par Polydor Basunga. Merci d'avoir été des nôtres.